prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Nous continuons dans notre série d'études les enseignements de Jésus dans la chambre haute. Les enseignements de Jésus dans la chambre haute, ce sont les dernières paroles de Jésus, c'est ce qu'il avait à dire à ses disciples avant de partir. Et nous avons intitulé cette série d'études « Que votre cœur ne se trouble point ». C'est comme ça qu'il a commencé la soirée. Et en fait, tout ce qu'il disait, c'est pour que nos cœurs ne se troublent point. Il savait un peu ce à quoi nous serions confrontés et il voulait nous rassurer. Juste pour nous rappeler un petit peu, il a dit « C'est vrai que je m'en vais ». Je vous laisse, alors ça a un peu troublé les disciples, mais il dit je m'en vais, c'est pour mieux revenir. Et pas seulement revenir, mais c'est pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Puis il leur a dit aussi, ne craignez rien, je vous envoie un consolateur qui est semblable à moi, le Saint-Esprit, qui est en nous, qui demeure éternellement en nous. Et donc il sera là. Et puis il termine la soirée par cette prière de Jean chapitre 17. Alors nous avons déjà vu les premières parties et nous allons commencer à lire à partir du verset 12. Donc Jean chapitre 17 et je vais commencer même un peu plus tôt. Commençons au verset 6, pour mettre déjà entrer dans l'esprit de cette prière. Au verset 6, il nous dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Il s'adresse au Père et il dit « Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné » que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. » Entre parenthèses, vous savez, c'est ce qu'il dit au début de l'évangile, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire cette parole, cette lumière, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Alors il dit ici, « Je leur ai donné cette parole, » et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je m'arrête là. Nous n'allons pas traiter de tout ce qu'il y a parce que c'est vraiment dense comme pensée. Mais nous allons relever justement cette partie. C'est la partie qui va m'intéresser. C'est au verset 11, la deuxième partie du verset 11, où il dit « Père Saint, garde-les en ton nom. » Garde-les en ton nom. Père Saint, garde-les en ton nom. En fait, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament que nous avons ce titre, Père Saint. Il est employé nulle part ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que Jésus lui-même s'en serve. Et c'est lui qui dit Père Saint. Dans cette appellation, eh bien, nous voyons et mis en valeur l'intimité qui existe entre le Père et le Fils. Et c'est dans cette intimité que les enfants de Dieu, tous ceux qui le sont parce qu'ils ont reçu la parole, hein, eh bien, il les invite à entrer dans cette intimité. Il y a la partie père qui exprime cette intimité, cette relation filiale qui existe entre le père et le fils, mais qui existe entre nous, les enfants de Dieu, et Dieu. Et Jésus lui-même, hein, dans sa prière modèle, nous a enseigné à dire « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et donc, il y a cette proximité, cette relation, cette affinité, cette intimité qui est là, en l'appelant Père. Et puis d'un autre côté, eh bien, il y a le Saint. Et ça, c'est quelque chose qui nous éloigne. Parce que nous, en tant que pécheurs, nous nous sentons très décalés par rapport à la sainteté de Dieu. Et il est bon pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre et de jamais oublier que nous avons affaire à un Dieu saint, trois fois saint même, et en même temps, il est notre Père. Il y a ces deux réalités qui sont là, qui nous peuvent nous paraître incompatibles, mais qui sont compatibles en Jésus-Christ. Parce que, comme nous l'avons dit, nous pouvons être revêtus de la justice de Christ. Et donc, dans cette appellation, hein, Père Saint, qui est une réalité entre Christ et le Père, et qui doit devenir une réalité entre nous et le Père, parce que nous savons qu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, et là il fait référence à une réalité de l'Ancien Testament, des Lévitiques, et il dit « Puisque celui qui vous a appelé est saint, bien vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Il y a ce danger, et en fait... trop souvent, c'est une pratique, des chrétiens jouissent de ce désir « Père !» Et puis ils sont « Père, 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 Père !» Et on presque, on est trop à l'aise. Et on oublie l'aspect saint. Et nous sommes appelés à être saint comme il est saint. Lui, c'est pas lui qui s'abaisse et qui diminue sa sainteté afin de s'approcher de nous, c'est à nous en Jésus-Christ de nous approcher de lui et d'être saints, sanctifiés. Et donc, je crois que peut-être que nous ne pouvons pas appeler, nous ne sommes pas obligés d'appeler toujours Père Saint, mais je crois que de temps en temps dans notre esprit, il est bon de penser Père Saint. Père, mais saint. Saint, mais aussi Père. Et c'est une réalité extraordinaire et ça fait partie de cette bonne nouvelle que nous avons grâce à Jésus-Christ, cette relation. Donc Jésus s'adresse et dit Père Saint. Dit Père Saint, garde-les en ton nom. Qui sont les disciples? Déjà, il fait référence aux 11 qui sont là. Mais comme nous l'avons lu au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement qu'il prie, mais pour tous ceux qui croiront à cette parole. Jésus, là, d'abord, il nous dit pourquoi cette requête, hein, premièrement, pourquoi est-ce qu'il fait cette requête? Et s'il l'a fait, c'est parce que nous avons besoin de cette protection du Père. Il dit au verset 12, il dit, écoute, Père, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Moi, je les ai gardés. Pendant que j'étais sur terre, depuis le jour où je les ai appelés, depuis le jour où j'ai dit, viens, suis-moi, jusqu'à maintenant, je les ai gardés en ton nom. Mais Père, moi, je m'en vais maintenant. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Donc, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder dans le monde. Père, garde-les et garde-les en ton nom. Les disciples vont rester dans le monde. Et c'est vrai qu'ils ont été troublés. Ils ont été attristés par la pensée. Et il est vrai que, s'il fallait l'admettre, chacun de nous, on aurait dit, bon, ça aurait été bien quand même d'être là et d'avoir Jésus juste à côté, et puis de s'asseoir avec lui, de prendre du pain de ses mains, et de l'entendre prier. Et oh, j'aurais bien aimé être là. Et vous savez, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Finalement, c'est pour notre bien qu'il est absent. Mais il dit, je m'en vais, mais je vous laisse pas orphelin. Il dit, je demanderai au Père que vous envoyez l'Esprit Saint qui vous gardera. Mais Père, et c'est là la prière de Jésus, et vous souvenez ce que Jésus a dit lorsqu'il se trouvait devant la tombe de Lazare? Il a dit, Père, c'est pas pour moi que je... Parce que je sais que tu me donnes tout ce que je demande. Et donc, comme c'est une réalité que le Père donne toujours au Fils tout ce qu'il demande, eh bien nous savons, nous pouvons vivre dans cette réalité que nous sommes gardés au nom du Père Saint. Garde-les en ton nom. Et il a dit, j'en ai perdu aucun. Pour ce qui est de Judas, il a toujours été fils de la perdition. Il a été choisi pour justement, parce que, à cause de ce qu'il avait dans son cœur, et pour ce qu'il était disposé à accomplir, qui allait accomplir, réaliser le plan de Dieu. Donc ce n'était pas un problème, il n'y a pas de problème, c'était les 11, il a dit « je les ai gardés ». Et réfléchissez un petit peu, relisez les évangiles, et vous voyez que finalement, il n'est jamais arrivé quelque chose de dangereux, ni de... Les disciples n'ont pas eu de problème pendant les 3 ans et demi, avec ces pharisiens qui regardaient Jésus avec des dagues, tellement ils le haïssaient. Ils pensaient que du mal. Et pendant qu'ils prêchaient, ils étaient au fond là, et puis ils pouvaient voir. Et c'est pas facile de prêcher quand on a du monde là qui pense du mal de nous. Et surtout qu'ils voyaient, ils savaient tout ce qu'ils pensaient dans leur cœur. Encore heureusement que moi je vois pas tout le monde et je vois pas tout ce qu'on peut penser de moi pendant que je parle. Mais lui, il savait. Mais les disciples n'ont jamais vécu de cela. On n'a jamais essayé de tuer un des disciples pendant la vie de Christ. On n'a jamais essayé de le jeter par-dessus la falaise. On n'a jamais essayé de le saisir. Et même dans le jardin de Gethsémané, quand ils ont pris Jésus, ils n'ont pris aucun disciple. Il dit, je les ai gardés en ton nom. Il dit, garde-les comme je les ai gardés les miens. Il n'y en a aucun qui sera perdu. Nous sommes gardé par Dieu, c'est pour ça que je suis. C'est pas parce que je suis fidèle que je serai gardé, que j'y arriverai, mais c'est parce que Dieu me garde et parce que Jésus a demandé cela du Père. Garde-les en ton nom. Jésus a dit, je les ai gardés. Mais vous savez, quand on lit les évangiles, à aucun moment est-ce que j'ai l'impression que les disciples se savaient gardés par Jésus. En fait, ce qui ressort dans le jardin de Gethsémané, c'est que Pierre croyait que c'était lui qui devait protéger Jésus. Et avec les moyens qu'il avait, il sort son épée, et puis il est tellement, il n'est pas plus adroit que moi, et il rate le bonhomme, heureusement, il coupe que l'oreille. Ça ne rassure pas, hein. Jésus lui dit, écoute, Pierre, c'est pas toi qui me garde, c'est moi qui te garde. J'ai prié pour toi, Pierre, afin que tu ne défailles. Il dit, Pierre, range, si je voulais, je pourrais appeler 12 légions d'anges. Un ange suffirait. Mais il dit, je pourrais appeler 12 légions. C'est pas toi que j'ai, c'est pas toi qui me gardes, c'est moi qui te garde. C'est pas nous qui préservons le témoignage de Dieu dans le monde. C'est nous sommes gardés au nom du Père. Contrairement à Pierre, nous devons admettre que nous avons besoin d'être gardés. Nous sommes fragiles. Et si vous ne le pensez pas, c'est que vous venez de découvrir le Seigneur ou bien vous ne vous rendez pas compte du danger. Mais nous sommes fragiles. Et si Jésus a demandé que le Père nous garde, c'est qu'on en avait besoin. Parce que lui, il ne fait rien d'inutile, ce n'était pas quelque chose comme ça, juste un bonus pour rassurer les enfants. C'est parce qu'on en avait besoin. Il a dit, je les ai gardés jusque-là, et ici je te les confie, et tu les gardes. Parce que moi, eh bien moi je vais devoir aller sur la croix, je vais devoir aller dans la tombe, donc garde-les, Père, et garde-les dorénavant, jusqu'à ce que je revienne les chercher. Et puis il dit, garde-les en ton nom. Et si Jésus a demandé que nous soyons gardés au nom du Père, c'est parce qu'on en avait besoin. Et c'est le seul pouvoir qui est capable de nous garder. Parce qu'on a affaire avec un ennemi qui est bien plus puissant que nous. Et le seul pouvoir qui soit au-dessus de notre ennemi Satan, c'est le nom de notre Père. Voilà pourquoi la requête. C'est parce qu'on en a besoin. Et en fait, parce qu'il l'a fait, et il ne va pas interrompre, il assure. La garantie que Dieu nous donne en Jésus-Christ, eh bien, il l'assure. Jusqu'au bout. Nous n'avons rien à craindre. C'est sans interruption. Deuxièmement, pourquoi ou comment sommes-nous gardés? Comment sommes-nous gardés? Comment est-ce qu'il nous garde? Eh bien, premièrement, nous ne sommes pas gardés parce que nous invoquons le nom du Père. Mais nous sommes gardés en son nom. Pas par son nom, mais en son nom. Vous savez, au nom du Père n'est pas une formule que Jésus a laissée et qu'on peut utiliser comme une épée pour nous défendre ou comme un bouclier pour nous protéger. C'est une formule qu'il faut apprendre à manipuler et puis auquel il faut penser rapidement. Et dès que je suis dans le danger, je dis « Au nom du Père, écarte-toi » C'est vraiment, mais c'est vraiment une fausse imagination de croire que nous pourrions manipuler cela et savoir s'en servir correctement et au bon moment et toujours s'en servir. Parce que si ça dépendait de cela, eh bien, il y a longtemps qu'on serait parti. Vous savez, Jésus ne nous donne pas ni son nom, ni le nom du Père à utiliser comme un taser ou comme un gaz paralysant pour que quand on se sent attaqué par un esprit, tout d'un coup, et puis il est bloqué. Et je me sers du nom de Jésus comme pour paralyser un esprit, pour arrêter le diable. Mais on se fait des drôles d'idées en tant que chrétien. Et on se croit parce qu'on est armé du nom de Christ et qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on peut se protéger. Vous savez, le diable, il est malin. Il est rusé. Il sait venir quand on ne s'y attend pas. Hein. Et puis, vous savez, il y a des longues heures dans la journée où nous, on est inconscient. Hein. Quand on dort. Quand on est préoccupé par autre chose, quand on a les idées ailleurs, il y a des occasions dans la journée pour que le diable vienne nous tenter et nous emporter. Si ça ne dépendait que du fait que nous faisions appel au nom de Dieu, il y a longtemps qu'on serait parti. Heureusement que Jésus, dans sa sagesse, a dit: Père, c'est à toi que je les confie, toi garde-les. Nous ne sommes pas en mesure de toujours réagir. Et puis, pensez à Job. Je ne sais, j'ai pas l'impression que Job savait même qu'il y avait une protection autour de lui. Lui, il faisait ce qu'il croyait être bon, et puis même quand ses enfants faisaient une fête, il se disait: mais peut-être est-ce qu'ils ont péché? Je vais les rassembler, on va faire un sacrifice, et au cas où. Il prenait toutes ses précautions. Mais vous savez ce qui embêtait Satan? C'était pas le fait que Job soit un homme intègre et juste et fidèle et puis qui faisait des sacrifices et des holocaustes pour ses fils. C'était pas ce qui l'embêtait. Il dit: ce qui m'embête, c'est le fait que tu l'as protégé. Que tu as mis une clôture autour de lui, c'est le mot. Tu l'entoures. C'est ça qui m'empêche, c'est ça qui me freine. C'est pour ça que je ne le touche pas. Il dit: enlève cette protection et tu verras. Et dès que Dieu a baissé la hauteur de la clôture, eh bien Satan est passé. Hein. Ce n'est pas parce que Job était intègre et fidèle et vigilant, c'est pas ça qui l'a protégé. C'était la protection de Dieu. Et c'est le même diable qui est là aujourd'hui. Et si nous pouvons sommes protégés, c'est par la protection que Dieu nous accorde. Jésus sait tout cela. Il connaît bien notre ennemi. Il dit: Père, le seul qui peut les garder, c'est toi. Et donc, je te les confie à toi. Pas, il ne nous a pas voués à un saint, il ne nous a pas voués à un prophète, il a dit: Père saint. Et il n'y en a pas 36 où c'est clair qui il est. Père saint, garde-les en ton nom. Gardez au nom du Père. Ce n'est pas la formule qui nous protège. Vous savez, même chez les hommes, dans certaines communautés, il suffit de porter le nom de quelqu'un, et puis tout d'un coup, personne ne nous touche, on passe partout, on a les droits, on a. Non, non, ça c'est. Il est de la famille d'un tel, on ne touche pas. Ou il a. C'est la famille d'un tel, il a des privilèges, lui il passe. Eh bien, nous, nous portons le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on est protégé. Moi, je ne suis rien en moi-même, mais je suis sous la protection du nom de Dieu. Et donc, le diable, il peut me regarder, il me dit, toi, tu sais, un souffle et tu serais parti, mais tu portes le nom de Dieu. Je ne peux pas te toucher. Il faut que je demande l'autorisation. Vous savez, ça devrait nous rassurer. Hein. Ça devrait nous rassurer. On est là, on est, oui, les Bataclan, et puis des ceci, et les patatras, et tout cela dans la vie. Mais nous sommes protégés par le nom de Dieu. Vous savez, quand dans Actes chapitre 3, quand le paralytique a été guéri là, à la porte du temple, les gens accourent et regardent à Pierre, et Pierre dit, oh, ne regardez pas à moi. Hein. C'est au nom de Jésus. C'est par la foi au nom de Jésus que cet homme marche. Le pouvoir est dans le nom. Et le nom a des capacités. Et ce nom, c'est un pouvoir. Et quand Jésus a confié, c'est pas seulement un nom, mais c'est que ce nom porte un pouvoir. Il dit, Père, garde-les en ton nom. Nous sommes gardés par le nom puissant de Dieu. Bon, je pourrais parler d'autres protections. Vous savez, Éphésiens chapitre 1 nous dit que nous avons été scellés le jour où nous avons cru. Et nous avons reçu la parole qui a été prêchée. Eh bien, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau est apposé à chaque enfant de Dieu. Et c'est une manière de dire, c'est à moi, touche pas. Le simple fait que je sois scellé du Saint-Esprit, que je porte le sceau du Saint-Esprit, qu'il soit présent en moi, c'est que celui qui le touche aura affaire à moi. Et ça aussi, ça nous protège dans ce monde. Parce que sinon, on ne ferait pas long feu ici. Et puis, il y a aussi, l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 6, il nous parle de l'armure du chrétien. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués et il dit, je vous donne une armure, je ne vais pas développer le principe, hein, je vous laisse lire, hein, mais il y a tous ces aspects de l'armure. Il dit, afin de vous protéger contre les ruses du malin. Et si nous avons cette armure, c'est que cette armure est suffisante. Il y a des gens qui négligent l'armure et puis ils se baladent avec le nom de Jésus ou ils se baladent avec leur expérience ou ils se baladent avec leur... Et puis ils croient qu'ils chassent les démons et ils lient les esprits, ils font toutes sortes de choses avec... Il dit non, non, non. C'est l'armure qui protège et pas autre chose. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, de la parole, Tous ces aspects-là sont là et ils sont suffisants, mais il les faut tous. Et il y a une protection des attaques. Ce n'est pas qu'on perdrait notre salut, mais les attaques sur nous. Parce qu'il y a les traits enflammés du malin qui sont là pour nous distraire, pour nous effrayer, pour nous ralentir. Mais l'armure du chrétien est là. Mais dans tout cela, au-dessus de tout cela, eh bien, il y a cette requête du Seigneur. Père, garde-les en ton nom. Et si je n'avais que ça, ça suffirait largement. Nous avons vu que Jésus a dit, jusque-là, je les ai gardés, maintenant, Père, garde-les. Il dit, Père, garde-les en ton nom, parce que tout pouvoir est en ton nom. pouvoir est dans le nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux et sur la terre. C'est le pouvoir d'un nom. Le nom du Père. Mais pourquoi sommes-nous gardés? C'est pas parce que nous sommes des petits trésors, hein, ou c'est pas parce que nous sommes mignons, hein, c'est pas parce qu'on est fidèle, et c'est pas parce que il dit je vous aime bien. Oh. Ou j'ai pitié de vous, pauvre de vous. Vous êtes quand même un peu sincère, quand même, en tant que chrétien. Vous encaissez pas mal, on se moque de vous de temps en temps. Oh, ouais, je crois que je vais vous garder. On va pas laisser toucher les bibelots du ciel. Non, 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 c'est pas du tout ça. Vous savez, dans sa prière d'intercession, c'est pas pour que empêcher le diable de nous affecter et d'être un peu malmené par le monde. C'est pas pour ça qu'il nous dit de le garder. Et relisons le passage, verset 11. Il dit « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Pourquoi ?» Garder n'est pas une fin en soi. Garde pourquoi ? Beaucoup de chrétiens s'arrêtent avec « garde-moi, protège-moi, guéris-moi, pourvois mes besoins, tout ça. » Mais pourquoi est-ce qu'il va le faire ? Dieu est un Dieu qui a toujours un but, qui a toujours un objectif à atteindre. Et il dit « Père, garde-les en ton nom, afin qu'ils soient tous un. » Vous savez, il y a pas mal de chrétiens qui sont de drôles d'idées. Ils disent « Ah, le Seigneur veut qu'on soit un. Eh bien, on va se débrouiller pour être un. On va louer un grand stade, on va se réunir là, on va tous chanter, nous sommes dans le Seigneur, et puis en avant. Et ça y est, on est un, il doit être content. Hein, il voit ça, ça doit lui faire plaisir. » Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « Père, garde-les toi-même en ton nom, afin, c'est par le fait que tu les gardes qu'ils sont un. » C'est parce que tu les gardes en ton nom qu'ils seront un. Il dit qu'ils soient un, pas seulement parce que ça fait joli, mais pour que ça montre qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un, et qu'ils reflètent cette unité que nous avons, qu'ils le reflètent dans le monde, et que le monde sache que je suis venu de toi. C'est ça qu'il dit. Vous avez vu ça au verset, je lis 20 et 21. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà pourquoi on doit être un. Et vous savez, je me suis arrêté hier soir et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment être un? Parce que quand Dieu fait quelque chose, ça ne ressemble pas à quelque chose sur terre. C'est une unité qui ne ressemble pas à une unité terrestre. Vous savez, ce n'est pas l'uniformité qui fait l'unité. Chez les hommes, oui. Hein, quand on veut que tous les militaires marchent en même temps, on leur donne tous les mêmes uniformes. Quand on veut qu'une équipe joue ensemble et puis qu'ils se reconnaissent, ils ont tous la même tenue. Ça, c'est chez le monde. C'est l'uniformité fait l'unité. Et vous savez, parfois, même dans nos églises, on est tenté de le faire. Écoute, si tu crois exactement comme moi et tu mets tes virgules là où je mets mes virgules et tu mets tes points là où je mets mes points et tout ça, alors là, il y a l'unité. Et après, on arrive à des pasteurs qui croient que, voilà, si vous croyez comme moi, ça ira bien. C'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça l'unité dont il parle. Vous savez, l'unité, si c'était la conformité qui faisait l'unité, eh bien, moi, je connais certains sites de pèlerinage où vous pourriez aller et vous voyez, tout le monde se ressemble et tout le monde est pareil et tout le monde se plie en même temps et ça fait... Est-ce que c'est ça l'unité dont il parle? Jamais. Ça, c'est une unité que peut produire l'homme. et que l'homme essaie d'offrir à Dieu, mais il a dit, j'ai pas besoin, c'est pas à moi ça. Ce qu'il veut, c'est l'unité que lui produit, c'est pas celle que nous lui offrons. Se réunir et puis chanter en même temps, ben vous allez dans un stade, vous trouvez ça. Il y a un côté du stade qui est uni dans un côté, puis il y a l'autre moitié du stade qui est uni de l'autre côté. Et alors, en tant que chrétien, on croit que ben, on va se rassembler plein de gens qui viennent du même mouvement spirituel, hein, ils s'appellent tous du même nom, avec des églises qui portent les mêmes noms, et puis ils vont tous chanter ensemble. Ah, voilà l'unité. Mais on est en train de blaguer avec Dieu. On se moque de lui. Je sais que c'est bien intentionné. Mais dit, c'est moi qui produis, c'est une unité. C'est quand le monde va le voir, il va dire, mais ça, c'est Dieu qui fait. On doit avoir une unité qui ne ressemble pas à autre chose. Et les unités, l'unité, quand l'homme crée une unité, une situation d'unité, vous savez, c'est toujours pour une courte durée. On ne peut pas faire durer longtemps. Si vous avez des affaires avec des êtres humains, ça ne dure pas longtemps, l'unité. Ça marche pendant un temps, le temps d'une conférence, le temps d'œil, et puis après, même quand vous avez un mouvement d'église, à un certain moment, puis tout d'un coup, c'est pas de cette unité-là qui parle. Jésus, déjà dans la chambre haute, avait dit aux disciples, il dit, vous savez, je vous donne un commandement. Tout simplement, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous n'avez pas besoin d'organiser des choses, vous n'avez pas besoin de vous donner des bannières et des noms. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous dites, oui, mais ça c'est difficile, c'est plus facile d'organiser une conférence. Ah ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. On va tous se donner une même version de la Bible, on va tous se donner un même recueil de chants, et on va tous se retrouver au même endroit, et l'oreille à l'unité. Et oui, je comprends, c'est plus facile. Mais c'est pas pour cela qu'il prie. Parce que vous savez ce qui est extraordinaire, il a dit, Père, je ne prie pas uniquement pour cela, mais pour ceux qui croiront. C'est-à-dire, l'unité se fait non seulement avec les disciples vivants, mais avec ceux qui sont du passé. Et lorsque le monde voit qu'il y a une unité avec ceux du passé et ceux de maintenant, c'est-à-dire on a quand même 2000 ans d'histoire dans le christianisme, je veux dire, dans le vrai. Hein. Et le monde doit voir cette unité qui existe et qui a toujours caractérisé les disciples de Jésus-Christ. Il dit, moi, je ne prie pas seulement pour cela, je prie pour tous. Et que tu les gardes afin que le monde, et ça c'est quelque chose que le monde peut voir avec leurs yeux, et voir qu'il y a une unité là qui est inexplicable, qui n'est pas à la portée des hommes, qui doit venir d'ailleurs, et finalement qui illustre celle qui existe entre le Père et le Fils, et qui démontre que ben, Jésus, il est certainement venu de Dieu. Vous savez, le monde nous regarde, et Jésus, déjà l'apôtre Paul a dit, mais c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. Le monde nous regarde et me dit, mais vous savez, les chrétiens, moi, je connais ça. Hein, tu sais, les problèmes, on n'a pas besoin d'être devenir chrétien pour avoir les problèmes qu'ils ont, hein. Le taux de divorce dans le monde, c'est le même que le taux de divorce chez les chrétiens. Il dit, ça sert à quoi d'être un chrétien? Et ils ont raison. Et si je n'avais pas rencontré Jésus-Christ un jour, ben je penserais comme eux. Je dis, je vous comprends. Et vous avez raison, parce que vous ne savez pas, avec ce que vous savez, et l'information que vous avez, et ce que vous avez vu, je vous comprends. Mais moi, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et j'ai une autre perspective, je vois les choses autrement. Et vous savez, c'est merveilleux. Lorsque nous tous, ce qui fait notre unité, c'est pas qu'on se balance en même temps et dans le même rythme et en même temps, mais c'est parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et ce fait d'être avoir les yeux fixés sur Christ fait une transformation qui caractérise tous les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu fait le même travail quand c'est lui qui le fait. Quand c'est les hommes qui font, qui ont leur christianisme, bien sûr, on arrive à reconnaître. Vous savez, on arrive à reconnaître des chrétiens du milieu, il suffit de les écouter prier. Et tout de suite, on sait de quel milieu ils arrivent. Pourquoi ? On reflète le milieu, on ne reflète pas Jésus-Christ. Et je me parle à moi, hein, c'est pas à vous que je parle à moi aussi hein, dans tout cela. Parce que si notre désir est vraiment de rentrer dans la pensée de Christ, eh bien là, Jean chapitre 17, c'est la pensée de Christ. C'est vraiment, il parlait de son cœur et il parlait à son Père. Les disciples, je ne vais pas poursuivre tout, encore cette idée de l'unité parce que on va continuer dans la prière et les versets suivants, on va continuer. Donc je vais m'arrêter avec cette pensée-là. Mais cette idée, hein, jusque-là, c'est seulement de dire Christ a dit Père, Saint, garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom, parce qu'ils ont besoin d'être gardés. Ils sont dans le monde, et moi je m'en vais, mais eux ils restent. Garde-les en ton nom. Garde-les jusqu'à ce que je revienne les prendre, afin que là où je suis, ils soient aussi. Garde-les en ton nom, parce que quand tu les gardes, une unité se fera, sera manifeste. Lorsque c'est toi qui agis. Et le monde saura que c'est toi qui m'as envoyé. On vient de fêter Noël. J'espère que vous avez pensé au fait que Jésus est venu du Père, qu'il a été envoyé du Père pour être notre sauveur. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et nous l'avons compris, mais le monde n'a pas compris. Ils n'ont vraiment pas compris. Parce que sinon, ils n'iraient pas avec ce bonhomme en rouge. On verrait que c'est Jésus-Christ qui apporte la joie. Eux, ils font la fête une nuit, et puis ils ont un mal de tête le lendemain matin. Moi, quand je pense à Jésus-Christ, eh bien, le mal de tête que j'avais s'en va parce que je trouve la paix en Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, eh bien, qu'elle rassure vos cœurs. Prions. Père Céleste, encore une fois, quel privilège d'être inclus dans ta prière. Nous, souvent, quand nous prions, nous ne savons pas quoi demander et on dit pas mal de bêtises. Heureusement que le Saint-Esprit interprète et présente une requête qui soit conforme à ta volonté. C'est certainement pour cela qu'on n'obtient pas tout ce qu'on demande. Mais Père, mais toi, le Père répond. Et tu as demandé ce qu'il fallait vraiment. Tu as demandé quand ta prière, c'était ta pensée et c'était la pensée du Père. Et c'est de ce dont nous avons besoin. Père, merci pour cette protection. Elle était là avant que nous en soyons conscients. Et elle sera toujours. Et heureusement, quelle que soit notre performance, elle sera encore là, parce qu'elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend du fait que le Fils l'ait demandé. Père, merci. Merci d'avoir rendu tout cela possible en offrant ton Fils sur la croix, qui est mort pour nous. Son sang a été versé, afin que le péché puisse être expié et que nous puissions entrer en communion et même nous approcher avec assurance au trône de la grâce. Père, loué soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.